explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Se promener sur un sentier d'un pays lointain, rencontrer quelqu'un dont on ne sait rien et dont on ne connaît pas la langue. Et puis quelques heures plus tard, se retrouver assis face à cette personne, le regard plongé dans le sien, sans échanger le moindre mot et sans que la situation ne suscite le moindre malaise. Voici ce que vit régulièrement Stéphanie Ledoux lors de ses pérégrinations à travers le monde. Stéphanie Ledoux est une artiste voyageuse. Elle parcourt la planète, pastels et crayons dans la besace, et elle dessine celles et ceux qu'elle croise sur son chemin. Des femmes Imba, à la peau enduite d'ocre rouge en Namibie, un sorcier vaudou au Bénin, une tatoueuse de 107 ans, détentrice de savoirs ancestraux aux Philippines. Du bout de ses crayons, Stéphanie Ledoux saisit la profondeur d'un regard, la lumière d'un sourire, l'intensité d'une rencontre. Pour elle, le dessin est une porte pour aller vers l'autre, s'imprégner de sa culture, comprendre son mode de vie, ses croyances. Lors de ses voyages, Stéphanie Ledoux dessine aussi la nature, un baobab qui défie le temps, un gecko qui se faufile entre les pierres d'un temple. On regarde le monde avec plus d'acuité lorsque l'on dessine. Dans un très beau livre intitulé « L'Agbé, échappé, dessiné » paru aux éditions Elitis, Stéphanie Ledoux raconte ses derniers voyages à travers ses dessins accompagnés de textes. Cet après-midi, de la Namibie au Cambodge en passant par les Philippines, l'artiste nomade Stéphanie Ledoux nous brosse le tableau de ses plus belles rencontre. Louise Cognard a préparé cette émission, David Leprince la réalise, avec à la technique aujourd'hui Benjamin Wagon. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Le marae de Arahurahu est un site archéologique qui permet de partager un bout de culture et notamment la religion ancestrale des Polynésiens d'origine, qu'on appelle les Maohi, avant l'arrivée des Européens. Et on doit vraiment rentrer ici et ressentir ce qu'on appelle le mana, c'est-à-dire la puissance du lieu qui vous envahit quand vous le visitez. Quand on arrive, on est accueilli par des tikis. Les tikis sont considérés comme les premiers hommes étant à l'origine de l'humanité. Ici, celui-ci a été sculpté dans la pierre.
Bonjour Stéphanie Ledoux.
Bonjour Daniel.
Mais quel plaisir de vous voir arriver in extremis à cette table et devant ce micro. Nous commençons notre bivouac avec vous à Tahiti, car c'est à Tahiti que vous avez fait votre premier grand voyage. Vous aviez 13 ans et ce site particulièrement hein, dont on entendait la description, Marae Arahurahu, si j'ai bien prononcé, vous a marqué. Quel souvenir en gardez-vous ?
C'est le plus grand voyage que j'ai fait pour commencer, en fait,
ouais.
Avec mes parents et mon petit frère. C'est un voyage très, très, très marquant pour moi.
Ouais.
Et je suis instantanément tombée amoureuse de ce lieu. Enfin, en famille, d'ailleurs, on est tous tombés amoureux de ce lieu. Comme il était dit dans le reportage, le mana, enfin, la puissance, quelque chose d'inexplicable qui ouais. vit encore sur cet ancien lieu de culte et est chargé par ses énergies. Alors, j'ai pas osé dessiner la première fois.
Ah
en
oui.
tout cas, pas in situ à
pas,
l'époque.
Pas osé dessiner, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'intimidant devant ces tikis, hein, ces personnages symboliques de pierre. Vous ne vous sentiez pas autorisé à dessiner
Peut-être quelque chose comme ça. Peut-être aussi parce que j'avais pas encore l'habitude de dessiner en public. Parce que quand on dessine sur le terrain, on s'expose au regard des habitants, au regard des passants. Et j'avais peut-être pas encore assez confiance en moi pour faire du dessin spectacle, entre guillemets. Mmh. Et donc, c'est des années plus tard, quand j'ai eu la chance de retourner sur ce site, que je l'ai enfin fixé du bout de mes crayons.
Ouais. Dessiner en voyageant, ça oblige à regarder différemment, plus intensément.
Ça oblige à vraiment faire corps avec le lieu. Enfin, moi, c'est du dessin méditatif, en fait.
Ouais.
On a trop tendance, et je le vois beaucoup dans le... le tourisme de consommation, et notamment qui est poussé par les réseaux sociaux, à peine arriver sur un site, dégainer son téléphone et prendre des photos, des selfies, des choses comme ça. Avec le dessin, il y a une approche qui est beaucoup plus paisible, beaucoup plus lente. On commence par s'immerger, on commence par ressentir, et c'est seulement... J'ai toujours cette chose-là qui ressemble un peu à une autorisation. Ouais. J'attends de me sentir autorisée à sortir les crayons et les croquis, que ce soit devant un paysage où je commence par m'émerveiller et m'imprégner, ou que ce soit avec des personnes où j'estime qu'il faut quand même un petit temps de... Ouais. Faut s'apprivoiser avant d'oser cette chose qui est... si intime, en fait, de se regarder les yeux dans les yeux pendant tout le temps du dessin.
Eh oui, on va avoir l'occasion d'en parler. Il y a un exemple célèbre, Nicolas Bouvier, qu'on ne présente plus dans cette émission, écrivain voyageur. Il a fait certains de ses voyages, et notamment les premiers, avec un ami peintre, Thierry Vernet. Et je vous propose d'écouter, à ce sujet, un proche de Nicolas Bouvier, le journaliste Olivier Bauer, qui explique l'influence que le peintre Thierry Vernet a eue sur l'écrivain Nicolas Bouvier.
Thierry a eu une véritable influence, non seulement sur l'écriture de Nicolas, mais sur le regard de Nicolas. C'est Thierry qui a appris, Nicolas à regarder les paysages. C'est Thierry qui a initié Nicolas aux couleurs. C'était Thierry le peintre. Et Nicolas a profité justement de ces connaissances-là, de cette sensibilité-là, pour à son tour devenir l'artiste qu'il est devenu, dans le choix même des mots. Quand il parle de ciel couleur aubergine, il faut y voir la patte de Thierry.
Olivier Bauer, parlant de l'influence du peintre Thierry Vernet sur l'écriture et la façon de regarder Nicolas Bouvier, vous avez, vous aussi, ce sentiment que l'œil du dessinateur porte un regard singulier sur ce qu'il voit, Stéphanie Ledoux?
Moi, c'est ça que j'adore avec le dessin. C'est Et je suis moi aussi admiratrice de beaucoup de peintres et de dessinateurs voyageurs. Et ce que j'aime voir chez eux, c'est un regard complètement subjectif. On sent leurs émotions, on sent leurs obsessions, ce qui les a happés dans ce qu'ils ont vu. Je trouve que c'est encore plus subjectif que de la photographie ou que de l'écriture, à mon sens.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on livre beaucoup de soi.
C'est ça. Et vous sublimez vos modèles. Parce que soit vous avez la chance de croiser que des gens beaux, mais en tout cas, lorsque vous les dessinez, quel que soit leur âge, quelle que soit leur culture, ils sont sublimes. On a mis quelques-unes de vos photos sur les pages Facebook et Instagram, enfin de vos dessins en photo sur les pages Instagram et Facebook du Temps d'un Bivouac. On a mis des liens aussi vers vos réseaux à vous, pour s'en faire une idée. Puis évidemment, il y a vos ouvrages qui sont sublimes. Mais les personnages que vous dessinez sont rayonnants.
Alors, il y a sûrement une part qui est de ma faute, puisque c'est moi qui sélectionne les modèles, et il faut qu'ils me touchent d'une manière ou d'une autre. Donc, je suis attirée pas par une beauté plastique, qui serait les canons de beauté de notre société, mais voilà, quelque chose d'authentique chez les gens que je croise, ou quelque chose que je sens communicatif dans leur regard. Il faut que je sens qu'il y ait une connivence ou une invitation de leur part avant d'oser y aller.
Ouais.
Et puis, ils m'offrent le meilleur d'eux quand ils posent pour moi. Comme je vous disais, c'est un face-à-face assez intime. Je ne me cache pas sur le fait que les dessins que je fais, je ne les fais pas seulement pour moi, mais qu'il y a des chances que ça soit exposé en France, dans des livres ou lors d'expositions.
Ouais.
Donc, c'est vrai que les gens se mettent en plus parfois sur leur 31 en disant « Attends, je vais sortir mon plus beau collier. Attends, je me recoiffe. Ou je vais changer de t-shirt.
Ouais. » Il y a quelque chose d'un peu solennel, suite dans cette rencontre.
Voilà,
on se sent investi, presque ambassadeur de sa culture, pays, de ses croyances. Vous faites en sorte que le temps de dessin dure une quinzaine de minutes pour que ça aille suffisamment vite, que ça ne s'éternise pas.
Entre 10 et 30 minutes, on va dire, selon la complexité des parures, parce que parfois les parures sont tellement complexes que je passe plus de temps que sur le portrait lui-même.
Ouais, et parfois, même la plupart du temps, maintenant, le dessin, vous l'offrez à la personne, et puis vous prenez par contre une photo pour en garder une trace.
Voilà, pour avoir des traces.
Et puis vous retravaillez ça après en atelier.
C'est ça, c'est que je ne perds pas de vue que j'ai vu une image qui m'a extrêmement inspirée. Je laisse le croquis parce que la limitation de ce que je transporte comme matériel et le temps que peut m'offrir la personne, c'est vraiment une épreuve, un croquis quoi, de terrain. Mais je ne perds pas de vue que j'ai envie d'en faire quelque chose d'un peu plus grand et d'un peu plus beau à la maison en ayant le temps et tout le matériel à disposition.
Et lorsque vous donnez ces croquis à vos modèles, oui, le temps d'une séance de pause pour vos dessins, quelle est la réaction ?
Alors, il y a toutes sortes de réactions, et c'est le moment qui me fascine, en fait. C'est vraiment pour ça que je me suis centrée sur les personnages plus que sur les paysages. Il y a des gens qui éclatent de rire. Il y a des gens qui sont absorbés, contemplatifs, et on ne sait pas ce qu'ils pensent. C'est très frustrant et très mystérieux.
Un exemple. Alors, on est chez le peuple San, en Namibie. C'est un enregistrement que vous nous avez gentiment offert. Vous nous présentez en deux mots le peuple San ?
Alors, le peuple San, c'est ceux qui sont péjorativement appelés Bushmen. C'est l'origine de l'humanité, c'est des chasseurs-cueilleurs. Génétiquement, je crois que c'est le peuple le plus ancien de l'humanité. Ils ne vivent plus vraiment comme chasseurs-cueilleurs, mais on peut les rencontrer dans certains villages où ils ont à cœur de montrer leur tradition.
Ils ont une langue particulière.
Ils sont très connus pour la langue des clics. Ouais. Ils ont plusieurs clics qu'on ne peut pas prononcer avec nos bouches d'occidentaux.
Ouais.
Et donc on les entend, je pense.
Oui, alors on va les entendre, et puis surtout on va se rendre compte que même quand on ne parle pas la langue, eh bien on comprend ce qu'ils ressentent.
Il y a des émotions qui passent.
Il y a des émotions, donc là c'est le moment où après avoir dessiné en cachant un peu, pour ménager la surprise, vous leur dévoilez votre dessin.
Are you ready?
Bon, manifestement, c'est un succès, il y a de l'enthousiasme. Ça se passe toujours comme ça, Stéphanie ?
Ça se passe plus souvent comme ça que le contraire.
Ouais. Il y a des moments quand même où vous avez eu des refus, notamment je crois au Maroc, où les personnes qui étaient pourtant très accueillantes avec vous, au moment où vous avez proposé de les dessiner, ça s'est un peu tendu.
Il y a quelque chose qui bloque avec l'image. Ils ne sont pas très à l'aise avec la représentation de l'être humain. Alors je ne sais pas si c'est des raisons religieuses, parce que l'islam traditionnel interdisait la production d'images d'êtres humains, ou si c'est simplement des superstitions, parce qu'il y a quand même des peuples qui croient qu'on leur capte, qu'on leur vole leur âme quand on fait ça. Donc, quand c'est comme ça, j'insiste pas.
Et en Éthiopie, vous avez eu une réaction très tendre d'un homme qui vous prend la main.
Oui, c'est une de mes plus belles interactions.
Ouais.
C'est un prêtre qui a fait tout un chemin de pèlerinage pour aller à la fête de Timkat, dans les églises saintes de la Libella, les églises orthodoxes. C'est des églises troglodytiques. Et il a un regard très tendre pendant tout le dessin. Et quand je lui donne le dessin, il me fait un baise-main. Je ne sais pas trop comment réagir. Et du coup, je lui fais un baise-main aussi, ce qui fait exploser de rire toute l'assistance.
Ah, apparemment, ça ne se faisait pas dans l'autre sens.
Les femmes ne le font pas.
Bon, très bien. Et en Inde, vous réalisez aussi qu'on peut dessiner certaines personnes et pas d'autres quand vous êtes dans le Gujarat.
Ah oui, dans le Gujarat, alors pas de problème pour dessiner les hommes, pas de problème pour dessiner les enfants, pas de problème pour dessiner les femmes âgées. Par contre, les femmes en âge d'être mariées, ça c'est un sujet sensible, parce que avec l'arrivée des réseaux sociaux, la pudeur des femmes est très 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 préservée. Et il est arrivé, alors est-ce que c'est une légende urbaine, j'ai pas pu le vérifier, que l'image de certaines femmes, que certaines femmes avaient consenti à donner innocemment pour une photo, soit utilisée pour faire des montages, notamment avec des images pornographiques. Et j'ai entendu dire que, à cause de cette mésaventure, ils avaient vraiment barricadé tout accès à la photo. Donc ça a été très compliqué de voir toutes ces femmes qui sont incroyablement parées de bijoux traditionnels, de robes qu'elles mettent des années à broder avant leur mariage, de tatouages faciaux, etc. Et de
pas pouvoir
les dessins dans ma tête.
Les saisir, voilà, vous n'avez plus que votre imaginaire pour faire les dessins. Allez, vous allez nous raconter vos voyages et vos rencontres dans ces pays, dans la suite de ce temps d'un bivouac. Stéphanie Ledoux nous emmène dans ses échappées dessinées cet après-midi sur France Inter. C'était Sushila Raman qui chantait Maya et notre invitée Stéphanie Ledoux me dit ça, c'est dans ma playlist. On est ravis de que la programmation de Djoubaka lui convienne.
Bonjour, je m'appelle Mwapikwa Munyumbara et je suis une femme Mba. Les gens nous considèrent comme un peuple sale et stupide qui ne sait pas lire, pas écrire, mais nous sommes des humains. Nous ne vivons pas comme des animaux sauvages. Nous en avons assez des gens qui font des films sur nous sans même nous demander qui nous sommes et ce que nous pensons. Donc on a décidé de faire notre propre film qui montrera comment on vit réellement dans un village Imba.
Extrait du documentaire « Les Imba font leur cinéma » où des membres de ce peuple d'éleveurs semi-nomades qui vit dans une région à cheval entre la Namibie et l'Angola racontent et font leur film pour raconter leur vie. Notre invitée Stéphanie Ledoux, artiste voyageuse, est allée à la rencontre des Imba. Décrivez-nous l'endroit où vous les avez rencontrés. On est dans le nord de la Namibie, hein, Stéphanie.
On est dans le nord de la Namibie, à la frontière avec l'Angola, effectivement. Et c'est un paysage assez aride, avec des arbres épineux, ça fait savane, et puis c'est quelques grands baobabs le long des rivières, et c'est tout petit village avec des huttes faites de bois, très très simples, en rond, avec un feu sacré dans chaque village, tout un protocole à respecter.
Et des cieux étoilé la nuit, absolument sublime.
Un hôtel 1000 étoiles, oui, ouais. Quand on a la chance de dormir en dessous.
Parce que c'est un ciel particulièrement pur, donc on
et puis c'est loin de toute pollution lumineuse, vivent sans électricité, juste ce feu sacré, et ouais, le ciel est incroyablement clair.
Comment les Imba ont-ils perçu votre travail de dessinatrice, Stéphanie Ledoux ?
Alors, c'est rigolo, parce que dans un premier temps, il a été chuchoté. Alors, j'avais un guide qui parlait Imba et qui pouvait me traduire, c'est une chance.
Ouais.
Que je voyageais avec un photographe. Qui avait du matériel assez impressionnant et assez coûteux. Et moi, à côté, j'étais avec juste mon carnet et mes crayons tout simples. Et du coup, il s'est chuchoté que j'étais trop pauvre pour avoir un appareil photo comme les autres voyageurs.
Bon.
Et puis, un peu plus tard, ils ont inventé un mot pour décrire mon travail, qui était étymologiquement un mot composé des mots « photographie à la main ». Donc, je ne dessinais pas, je photographiais à la main.
Oui, c'est ce qui est le cas, hein,
ben oui.
En quelque sorte. Et que faisaient-ils des dessins que vous leur offriez une fois que vous les aviez portraitisés ?
Alors, il arrive, j'offre presque tout le temps mes dessins, mais c'est vrai que c'est accueilli très différemment d'un peuple à l'autre. Il y a des peuples qui vont être très contents d'avoir une image matérielle figée sur le papier et qui vont la garder précieusement, voire même parfois l'encadrer. Et puis il y a d'autres peuples qui n'ont pas du tout ce lien matérialiste à l'objet et pour qui c'est plus quelque chose d'encombrant. Les Imba, il ne faut pas l'oublier, sont encore semi-nomades, donc à intervalles réguliers, il faut plier ces petits abris et puis tout mettre sur des dos d'âne. Donc un dessin, bon, bah, ils n'ont pas ça. Il s'encombre pas avec ça.
Ouais.
Donc il est arrivé que je retrouve mes dessins en boule avec les petits bois pour allumer le feu.
D'accord. Donc il le trouvait joli, mais
sur le moment,
pas au point de le garder.
Il y avait un super moment de partage avec de l'enthousiasme et tout ça, mais voilà, le souvenir matériel de ce moment n'avait pas sens pour eux.
Ouais, voilà, il n'y a pas ce sens de la possession. Ils l'ont quand même pour le bétail, hein. C'est très important pour eux, leur vache notamment. Ça même, vous précisez qu'il est extrêmement impoli de demander à un Imba combien il possède de vaches.
Absolument, ce serait comme vous demander, Daniel, combien vous avez sur votre compte en banque.
Ouais.
Et alors c'est plus facile à compter chez les Imba, parce qu'il suffit de se poster à côté des villages, mais effectivement c'est vraiment leur quasiment seul bien matériel, et ça sert aussi de monnaie d'échange, notamment pour des mariages.
Vous avez, vous, un intérêt tout particulier pour les peuples autochtones, et notamment pour leur parure, leur tenue, et dans le cas des Imba, si j'ose dire, vous étiez servi parce que, en fait, leur coiffure évolue tout au long de leur vie.
Ouais.
Leur parure sont très importantes, disent beaucoup de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont vécu.
Tout est très codifié. Ouais.
Ouais.
La coupe de cheveux d'un enfant va commencer par une double natte, enfin deux nattes qui font comme des cornes vers l'avant, sauf si c'est un jumeau, et alors là, c'est une seule natte qui fait une seule corne vers l'avant. À la puberté, il y a une autre coupe de cheveux qui est adoptée. Et après le mariage, il y a une autre coupe de cheveux qui est adoptée. Et il en va de même pour les parures, donc les bijoux. C'est des peuples qui sont extrêmement parés autour des chevilles, autour des avant-bras, autour des bras, des colliers qui descendent jusqu'au ventre, des ceintures. Et tout ça, ça change et ça évolue non seulement en fonction du stade de la vie, mais aussi il y a des modes.
Ah oui.
Si on revient à plusieurs années d'intervalle, on peut voir qu'il y a des petits trucs nouveaux par rapport à la mode d'il y a 7 ans.
Et ce qui ne change pas, on surnomme les Himba le peuple rouge,
oui.
Car les femmes s'enduisent le corps d'ocre. Oui.
Les femmes fabriquent leurs produits de beauté. Le beurre est fondu et mélangé à la poussière d'ocre.
Je prépare l'ocra. C'est ce que l'on met sur nos corps et dans nos cheveux. Ça rend la peau douce. Si tu ne mets pas d'ocra, tu es une personne sale. Tu dois le mettre dès le réveil.
Extrait de la série documentaire Les routes de l'impossible, diffusée sur France 5. Cette tradition de l'ocre rouge, ce beurre fondu coloré à l'ocre rouge, est extrêmement importante chez les Himba.
Oui, elle le disait très bien, on n'est pas tout à fait Himba si on n'est pas coloré en ocre rouge. Et c'est assez amusant parce que quand on prend des Himba en stop, parce qu'ils sont souvent piétons,
ouais,
et qu'ils ont des immenses distances à parcourir sous un soleil de plomb, il faut bien protéger la voiture, sinon on se retrouve avec du rouge de femme Himba partout.
Ouais. Cette couleur, ce pigment, il vous intéresse aussi, vous, en,
oui,
en tant qu'artiste, évidemment.
Alors j'étais adoptée par la chef du village qui s'appelait Big Mama,
ouais,
et qui justement a profité qu'on était munis d'une voiture pour nous demander si on pouvait aller ensemble à la mine d'ocre.
Oui.
Qui est une montagne, je crois qu'il y a deux endroits sur le territoire Himba où on peut vraiment forer dans la montagne pour trouver cette ocre qui est extrêmement coûteuse quand on la trouve sur le marché.
Oui.
Et donc on était honorés d'y aller avec elle, on a fait une offrande à la montagne pour demander l'autorisation de prélever l'ocre parce que c'est une ressource quand même assez rare. Et donc ça se prélève à la hache. Carrément, on a vraiment prélevé des petits cailloux et qui sont ensuite écrasés pour faire une poudre très très fine qu'ensuite elle mélange avec du beurre ou plus récemment de la margarine.
Et vous utilisez, pour vos peintures, vous avez utilisé cette ocre pour...
Alors moi, c'est vrai que j'aime bien dans ma démarche ramener des matières premières du pays. Je trouve,
ouais,
que ça rajoute de l'authenticité et de l'histoire à mes œuvres. Et donc quand il y a un pays qui est comme ça, où tout tourne autour d'un pigment, c'est une mine d'or pour moi, donc j'ai ramené de l'ocre, que j'ai trouvé une formulation pour faire de l'aquarelle avec de la, ouais, gomme arabique et de la peinture acrylique avec un liant acrylique, et je m'en suis servi dans mes peintures de Namibie.
Ouais, et ça rend évidemment, c'est superbe.
Et
ça sent. Ah oui,
ouais,
alors ça, on l'a pas dans le livre, évidemment.
L'ocre n'est pas seulement mise en poudre, elle est mélangée avec des plantes médicinales,
ouais,
qui sont aussi celles avec lesquelles les femmes Himba se parfument quand elles font leur fumigation.
Mmh.
Donc j'ai non seulement la couleur Himba, mais en plus l'odeur Himba dans ces peintures.
Ah, sublime. Mmh. Ça sent quoi alors exactement? Comment vous décririez cette odeur?
Une plante aromatique, ce serait, ouais, pas très loin du thym ou de la sauge, quelque chose comme ça.
Ce plaisir de jouer avec les matières et les supports pour vos dessins en fonction du pays que vous traversez, on le retrouve aussi dans d'autres voyages, et notamment, il y en a un qui est assez exemplaire dans ce registre-là, c'est le Japon. Je trouve, mm-hmm, que c'est un très bel exemple. Vous dites, les Japonais ont le goût des beaux objets, des belles matières, de l'outil au design et à l'ergonomie, mm-hmm, parfaite, ce qui fait que vous allez chiner dans les petites échoppes japonaises pour trouver le pinceau parfait et le papier de vos rêves. C'est,
ouais,
quoi le papier de vos rêves?
Alors, le papier de mes rêves, alors j'aime bien quand en plus ça raconte une histoire et qu'il y a une patine. Et là au Japon, enfin, quand on va faire les marchés aux puces au Japon, c'est le pays de la tentation.
Ouais.
J'ai récupéré des papiers. Alors ils ont un papier qui s'appelle le papier washi. Enfin, washi, ça veut dire papier d'ailleurs en Japon, qui est fait avec des fibres de mûrier, qui est extrêmement souple et qui est super agréable à coller. Et on retrouve des papiers washi déjà utilisés dans des cahiers de calligraphie, d'entraînement à la calligraphie, par exemple. Mmh. Et même eux ont un usage tout le temps recyclable du papier, du papier écrit et collé en multicouches pour faire des papiers d'emballage, par exemple. Pour emballer les kimonos précieux.
Ouais.
Et donc j'ai trouvé des emballages de kimonos qui sont déjà des assemblages de papier de différentes patines.
Ouais.
Et ça m'a fait... J'ai mis des mois avant d'oser utiliser ce support, tellement je l'ai trouvé beau.
Mais alors, je ne sais pas si on l'entend, mais en tout cas, quand vous dites ça, vous avez l'œil qui pétille. On a l'impression que vous avez déniché un trésor fabuleux avec ce papier. Même, vous le dites, alors que c'est un emballage de kimono, hein, même s'il a toute une histoire.
Antique.
Mais vous avez rapporté ce papier dans votre atelier. Et vous avez mis des mois à savoir comment l'utiliser, peut-être pour ne pas le gâcher.
Parce que ça reste une ressource précieuse et rare, et qu'il y a une histoire, et que j'ai envie de respecter cette histoire.
Et quel est l'intérêt pour vous de dessiner, plutôt que de dessiner sur une feuille blanche, de dessiner sur ce papier qui, du coup, n'est pas neutre, hein. Il y a déjà des dessins,
voilà,
de la calligraphie
dessus. Voilà, ça
perturbe
un peu le dessin, on peut dire.
Ouais. Ou ça, ça l'embellit, ça lui donne une âme supplémentaire à votre dessin.
Voilà, moi c'est ça. J'aime bien que ça raconte une histoire dans l'histoire. Il y a la rencontre avec la personne qui est dessiné, et puis il y a en filigrane des couches et des couches, comme un palimpseste en fait, d'histoire, des petits morceaux du pays que j'ai ramené avec moi.
Ouais. C'est aussi une façon de ne pas avoir l'angoisse de la page blanche.
Tout à fait.
De commencer déjà sur ce papier chargé d'histoire.
Et puis ces patines sont tellement belles que je pourrais pas faire plus beau si je devais le faire moi-même.
L'artiste que vous êtes est aussi très sensible, puisque nous étions au Japon, à l'art du boro japonais.
Oui.
Vous nous rappelez ce que c'est ?
Alors c'est dans la même veine, ça date d'un Japon rural où les matières premières étaient rares et précieuses et où on ne gaspillait pas, c'était l'anti-fast fashion si on veut.
Ouais.
Et donc chaque morceau de coton, d'étoffe, même si une étoffe était déchirée, on allait garder les morceaux encore utilisables et on les assemblait. Et donc il y a des choses qui sont reprisées avec des points de couture où on sent vraiment tout l'amour de la couturière, et puis des assemblages d'étoffes qui ont eu des histoires différentes et qui se retrouvent assemblés entre eux, souvent dans des teintes d'indigo, puisque c'était une couleur beaucoup utilisée au Japon, avec toutes les nuances de décoloration et de patine, et c'est des trésors.
On poursuit de brosser le tableau des émerveillements et des rencontres de l'artiste nomade Stéphanie Ledoux. Dans un instant, nous allons faire la connaissance d'une tatoueuse exceptionnelle, âgée de plus de 100 ans, que vous avez rencontrée aux Philippines.
Le temps efface tout. Comme l'air après l'orage. Tu oublieras ces mots. Thank you.
C'était Yeli Yeli qui chantait Nuba Galactica sur France Inter.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Tous les autres artistes tatoueurs sont morts. Il ne reste plus que moi à présent. Tu ne pourras te faire tatouer que si tu apprends à vivre comme un Kalinga courageux. Il te faudra apprendre nos traditions et notre mode de vie.
Wangod, que se passera-t-il quand vous ne serez plus là? Qui tatouera les gens?
Je ne suis pas prêt de m'en aller. J'ai encore de bons yeux. Je peux encore utiliser une aiguille. Je pourrais même t'apprendre, si tu le souhaites.
Vous avez vu la taille de cette épine?
Il n'y a pas mieux pour piquer la peau. Prends l'épine. Tiens.
La voix de Apo Wang Od, une tatoueuse plus que centenaire. Hein. Elle a ou elle aurait, on va dire, 108 ans aujourd'hui, parce que ça paraît incroyable quand on voit la vitalité de cette femme, hein, qui est toujours en vie hein, à l'heure où nous parlons, qui est devenue une légende vivante aux Philippines, et que notre invitée, l'artiste voyageuse Stéphanie Ledoux, a rencontrée lors de l'un de ses voyages. Cette rencontre vous a marqué, manifestement, puisque vous avez choisi de mettre le portrait d'Apo Wang Od, donc cette femme, en couverture de votre livre « L'Akbaye, échappée dessinée » aux éditions Elitis. Présentez-nous cette femme complètement incroyable, Stéphanie Ledoux.
On peut dire qu'elle est incroyable.
Ouais.
Alors, mon premier contact avec elle, c'était à l'exposition au musée du Quai Branly qui s'appelait « Tatoueur tatoué ouais. ». Elle était sur l'affiche et j'avais été subjuguée par cette image en noir et blanc d'un photographe philippin qui s'appelle Versosa. Et sans me douter que je la rencontrerai un jour. Et puis, pendant un voyage aux Philippines, je me suis aperçue qu'à vol d'oiseau, elle n'était pas si loin que ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tenter le coup et aller voir si elle est toujours en vie, toujours en activité, et surtout si elle accepterait de poser pour moi.
Et elle a accepté de poser pour vous.
Elle a accepté de poser pour moi.
Déjà, décrivons le lieu, hein, le ouais. village dans lequel elle vit, hein, Bouskalan.
Bouskalan.
Bouskalan. Ouais. Décrivez-nous les lieux.
C'est un tout petit village perché dans une région très montagneuse, au milieu des rizières en terrasse. Quand j'y suis allée en 2019, il n'y avait pas encore... la route n'allait même pas jusqu'au bout, donc il fallait finir à pied, en descendant et en remontant dans la vallée. Mmh. Et c'est un village avec des petites maisons en bois sur pilotis, qui vit encore vraiment traditionnellement, avec... des petits cochons noirs qui gambadent entre les maisons, ouais. et puis la vie du village
Et avec quand
rural.
Même cette particularité que cette femme, cette tatoueuse que vous avez rencontrée, Apo Wang Od, s'est fait connaître dans le monde entier parce qu'il y a eu des documentaires sur elle. Ce qui fait que ce village très traditionnel, avec des gens qui vivent tout à fait normalement, est de plus en plus visité par les touristes. Mais les touristes habitent chez l'habitant, hein, dans ce petit village. Elle, manifestement, n'a pas pris la grosse tête et est restée très simple, fidèle à ses traditions, à ses convictions. Elle a un parcours assez incroyable parce que normalement dans sa culture, dans son peuple, ce sont les hommes qui tatouent et son père l'a initiée au tatouage.
Tout à fait.
Quand elle était très jeune, elle avait 15 ans.
Ouais, ouais. Alors initialement, donc chez les Kalinga, le Mamba Batok, donc c'est le détenteur du savoir du Batok, donc du tatouage, est forcément un homme. Initialement, c'était des chasseurs de têtes et les hommes obtenaient des tatouages par des mérites gagnés à la guerre, donc concrètement en ramenant la tête d'un ennemi.
D'accord. Ils rapportaient la tête tranchée d'un ennemi et ils avaient le droit à leur tatouage.
Exactement. C'était
et les femmes avaient
une
aussi
médaille
droit
de guerre.
À... Ouais, c'était une médaille de guerre. Et pour les femmes, c'était quoi le
et
tatouage?
Et pour les femmes, c'était beaucoup plus ornemental. Et donc, le père d'Apo Wang Od, qui était donc le dernier tatoueur, n'a pas eu de descendant mâle. Donc, il a envisagé de la former, elle, parce qu'elle montrait des prédispositions pour le dessin. Donc, très jeune, elle a commencé. Et toute sa vie, elle a tatoué d'abord plutôt des gens de sa tribu, jusqu'à ce que cet Américain, Lars Krutak, qui est un ethnologue du tatouage, fasse irruption dans son village avec pour le documentaire dont vous avez passé l'extrait, qui s'appelle Tattoo Hunter et qu'on trouve sur YouTube, qui est super savoureux. Et donc, il s'intéressait au tatouage tribal. il en a fait ce docu où on voit sa vie pendant un mois dans le village, a gagné le mérite d'être initié et de recevoir lui-même un tatouage. Et puis ça a fait la renommée de ce village, d'abord dans la communauté très fermée des amateurs de tatouages, et puis de plus en plus largement, parce que quand on la voit dans le documentaire, elle est tellement... C'est un mélange de charisme et d'espièglerie. Ouais. Elle a vraiment quelque chose de très touchant. Ouais.
C'est-à-dire qu'à la fois, elle prend très au sérieux et avec beaucoup de...
Elle est la gardienne des traditions.
Elle est la gardienne des traditions. Mmh. Et en même temps, il y a cette, effectivement, ce côté un peu espiègle.
Elle est drôle. Elle est drôle. Elle fait des blagues tout le temps. Voilà. Ouais.
Et elle a accepté de vous... D'abord, comment ça se passe quand elle tatoue comment? Ça a l'air un peu... Un peu brutal, à l'ancienne,
alors,
on va dire.
C'est
un peu douloureux,
c'est pas brutal. On n'est pas dans les conditions d'hygiène d'un salon de tatouage européen, ouais. du tout. Et d'ailleurs, ça n'a pas changé, même depuis qu'il y a des touristes qui viennent du monde entier pour la visiter. Donc, l'outil à tatouer, c'est une épine de pamplemousse qui est montée sur un bambou. Et elle a un outil percussif avec lequel elle tape. Et elle tatoue, alors, au dire des tatoués que j'ai côtoyés dans ce village, très profond par rapport à ce qui se fait habituellement.
Ouais, donc, ça veut dire que ça fait plus mal que ce qui se fait traditionnellement.
Il paraît.
Vous avez franchi le
pas. J'ai franchi le pas parce que c'était l'occasion ou jamais. Je n'avais pas d'autres tatouages et je me suis laissé faire les trois petits points qu'elle fait aujourd'hui en guise de signature, parce que les grandes pièces de tatouage comme elles sont faites traditionnellement dans le peuple Kalinga, c'est ses petites nièces qu'elle a choisi de former pour lui succéder qui s'en charge. Et elle, comme elle est quand même très sollicitée et qu'elle est un peu vieillissante, quand même, elle fait plus que trois petits points
que
en guise de signature.
Points. Et vous avez ça à la base du pouce, hein,
voilà.
ces trois petits points bleus.
Ouais.
J'en témoigne, je les vois sous les yeux. Vous avez dit, elle forme ses nièces, c'est-à-dire que à la fois elle inscrit tout ça dans une tradition ancestrale, mais elle l'a fait évoluer cette tradition, puisque finalement maintenant,
exactement.
Ce sont les femmes qui détiennent le savoir du tatouage.
Voilà. Alors, c'était un savoir qui était voué à l'extinction, parce que y a plus de chasseurs de têtes chez les Kalinga. Et puis, les jeunes se désintéressaient un petit peu de cette tradition de tatouage qui était portée par les grands-mères et les grands-pères. Hein. Mmh. Et du fait qu'il y ait cette arrivée massive de touristes dans le village... ça a redonné un peu d'essor, et donc beaucoup de jeunes du village ont renoué avec cette tradition. Et quand donc Wang Od m'a confié avoir eu 13 maris, mais n'avoir pas eu d'enfants.
Ouais.
Et donc elle avait envie que la tradition soit quand même perpétuée, et donc elle a deux petites nièces qu'elle a commencé à... Enfin, qui aujourd'hui sont très professionnelles, et elle a choisi que le savoir-faire soit... porté par des filles.
Et le village a accepté sa décision.
Alors, je crois que la décision avait été confiée à un conseil des ancêtres, ou peut-être on a ouvert un cochon pour vérifier si c'était de bon augure.
Qu'est-ce qu'elle a pensé de vos portraits d'elle? Parce que vous l'avez dessinée, je le disais, elle est en couverture de votre livre.
Honneur, ouais.
On l'a mis aussi, le portrait sublime de cette femme avec toutes ses rides et ce regard intense, pétillant, lumineux. Qu'est-ce qu'elle a pensé de votre portrait d'artiste à artiste, puisque c'est une artiste tatoueuse, elle a vu vos dessins, qu'est-ce qu'elle en a dit?
Alors elle était moins surprise que d'autres personnes que je dessine pour la première fois, parce que comme elle a quand même beaucoup de passages dans son village, c'était pas la première peinture ou dessin qu'on faisait d'elle, mais elle avait l'air relativement contente de se voir dessiner.
Est-ce que l'encre de ces tatouages était intéressante pour la dessinatrice que vous êtes? Il y avait moyen d'en faire quelque chose de cette encre-là?
C'est de la suie, en fait. Elle récupère, et alors même aujourd'hui, c'est pas des encres de tatouage stérilisées, c'est vraiment avec son doigt sale, elle ramasse la suie au culot de la marmite dans laquelle elle a mangé.
D'accord.
C'est vraiment très roots.
Donc vous ne vous êtes pas inspiré de ça pour...
J'aurais pu collecter de la suie. Oui, j'ai pas pensé, à vrai dire.
À chaque fois que vous traversez un pays, vous essayez d'en comprendre la culture, les traditions, les croyances. Parfois, c'est plus difficile que d'autres. Ça a été le cas, j'ai l'impression, au Bénin, où vous êtes intéressé au culte vaudou. Qu'en avez-vous compris de ce culte vaudou?
Eh bien, j'ai été invitée au Bénin pour un festival d'échanges culturels franco-béninois. Je savais pas grand-chose du vaudou. Je pense que comme beaucoup de gens, ça m'inquiétait un petit peu, parce que finalement, ce qu'on perçoit du vaudou depuis l'Occident, c'est surtout les poupées vaudou, et en fait c'est des clichés qui n'ont rien à voir avec la religion vaudou qu'on rencontre sur place. Ce que j'en ai perçu, c'est que bah, c'est une forme d'animisme en fait qui prend pour divinité différentes forces de la nature. Après, pour en parler plus en profondeur, c'est difficile parce que c'est quand même nimbé de mystère. C'est pas accessible à tout le monde, il y a vraiment des initiés qui accèdent à ça. Et j'ai eu l'impression que plus je cherchais à m'y intéresser, plus ça se dérobait.
Okay.
Et j'ai pu assister pendant des cérémonies vaudou à des choses assez étranges. Mais je sais pas non plus si j'ai vraiment envie d'en parler.
Raconter.
Je sais pas aussi dans quelle mesure on a le droit ou pas. Enfin, c'est.
Ah, mais vous aussi, vous renforcez le mystère. Vous jouez ce jeu. Vous avez rencontré un sorcier vaudou.
Oui, alors on confond aussi souvent vaudou et sorcellerie. Donc vaudou n'est pas sorcellerie. Par contre, il y a aussi beaucoup de sorcellerie au Bénin et il y a des sorciers très craints et très respectés. Et oui, les gens sont toujours un petit peu en méfiance de la part des voisins avec lesquels ils ne sont pas en bonne entente à cause de ce risque de sorcellerie.
Ouais. Vous mettez plein de mystères, j'adore. Allez, suite et fin de nos pérégrinations avec l'artiste nomade Stéphanie Ledoux. Dans un instant, nous allons mettre le cap sur les temples d'Angkor.
Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna fuck you off. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be.
C'était Lola Young qui chantait One Thing sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Et on remercie bien sûr Djoubaka qui signe la programmation musicale de cette émission.
9 novembre 1931. J'ai voulu faire comme tout le monde. J'ai vu les ruines d'Angkor. De ces millions de membres noués, la forêt étreint les ruines avec un amour furieux. Pas de romantisme, je vous prie. Je ne dis pas qu'on ait eu tort de dégager certaines d'entre elles, mais je regrette de ne pas les avoir vues avant, quand il était à peu près impossible de distinguer la pierre de l'écorce, quand une fleur sortait de la bouche d'une apsara, quand la mousse livide où fourmillent les insectes modifiait le modelé d'un ventre ou mettait une lueur sur une croupe en mouvement. Certains arbres sont des girons. Pour abriter une statue, leurs racines de 2 ou 3 mètres de large se sont repliées tendrement, comme des ailes. Telle racine a parcouru 60 pieds pour passer sous un bas-relief qu'elle a déterré patiemment et porte avec amour à la hauteur de nos yeux. Telle autre se détourne de son chemin pour remplacer les dalles émiettées d'une esplanade dont elle a pris la consistance et la couleur. La forêt ne veut pas laisser échapper ses ruines.
Extrait du livre « Mon périple » d'Élie Faure, historien de l'art et grand voyageur. Son récit date de 1931. Vous les avez dessinés, ces temples d'Angkor, Stéphanie Ledoux. Je vous voyais écouter très attentivement là, le texte d'Élie Faure. Qu'est-ce que vous pensez de la description qu'il en fait ?
Bah, c'est magnifiquement décrit. Ça ressemble très fort aux émotions qu'on ressent quand on est dans un endroit comme ça et qu'on a la chance de pouvoir s'immerger dedans, notamment par le dessin.
Ouais. Cette alliance du végétal et de la pierre, ces ruines englouties, vous pouvez peut-être vous aussi nous les décrire, hein, par des troncs d'arbres, ça a l'air de vous fasciner complètement.
Complètement. Bah, y a cette esthétique de la ruine, d'une civilisation qui a brillé et puis qui s'est effondré, et puis la reconquête de la nature avec ces arbres majestueux, les fromagers qui effectivement serpentent entre les ruines avec en serre, avec des racines énormes, et on croirait presque les voir bouger, il y en a qui ressemblent à des serpents,
ouais.
Et c'est fascinant cette alliance du végétal et du minéral avec la victoire du végétal sur cette civilisation disparue.
Ouais, les arbres qui l'emportent. Alors, vous avez une passion pour les arbres. Mmh. Je ne l'ai pas dit, mais avant de trouver ce métier sur mesure qui allie vos deux passions, le dessin et le voyage, vous avez fait des études d'agronomie, de biologie. Vous avez été agronome un temps, ça n'a pas duré très longtemps. Et il semble qu'il reste quelque chose de ce goût, de cet intérêt pour la science, pour le végétal et notamment pour les arbres. Et il y a une très belle idée dans votre livre L'Agbaï, échappé, dessiné, paru chez Elitis. Cinq voyages sont présentés dans cet ouvrage. Hein. Vous nous emmenez en Namibie, au Cambodge, aux Philippines, au Japon et au Bénin. Mmh. Et chaque voyage est ouvert par un arbre que vous associez à ce pays qui vous semble le plus adapté pour le pays.
Tout à fait, c'est en choisissant les pays que j'allais mettre dans le livre que je me suis aperçue qu'en fait pour chacun il y avait un arbre symbolique, soit qui m'avait subjugué quand j'y étais, ou soit qui a un usage dans la vie de tous les jours, comme c'est le cas pour le mopané par exemple chez les Imba, ou le pamplemousse avec lequel on pique la peau aux Philippines.
Ouais, aux Philippines, c'est donc le calamondin, un citronnier des Philippines, et on s'en sert pour faire les fameuses aiguilles que la tatoueuse enfonçait très profondément. Le mopané en Namibie dont vous parliez, c'est un arbre qui sert à tout.
Qui sert à tout.
C'est-à-dire
Qui sert à faire les clôtures, qui sert de décoction médicinale, qui sert à sombrager, parce que c'est le seul arbre qui fait véritablement une ombre épaisse.
Et au Cambodge où nous étions, l'arbre de la Bodhi. C'est un figuier sacré. Pourquoi avez-vous choisi celui-là ?
Parce que j'adore la forme de sa feuille, qui est très évocatrice, parce qu'elle a la forme des toits des pagodes pointues. Ah. Et c'est sans doute en hommage à cet arbre que les pagodes sont construites ainsi. Et selon la légende, c'est sous cet arbre que le Bouddha a atteint l'illumination. Mmh. La Bodhi.
Vous êtes sensible à ces temples, à ces histoires sacrées. Mmh. Lorsque vous êtes dans les temples, et que vous dessinez ces pierres, ces sculptures entrelacées dans la végétation, il y a quelque chose de l'ordre de la méditation au moment où vous faites ces dessins ?
Ah, tout à fait. Et alors là, j'y suis allée dans un contexte où c'était juste après le Covid et le pays n'était pas encore vraiment réouvert au tourisme. En tout cas, il n'y avait pas du tout de tourisme de masse. Et du coup, je me retrouvais très fréquemment toute seule sur les temples avec juste les gardiens et puis quelques familles de Khmer qui passaient par là. Donc j'avais les conditions idéales pour pouvoir vraiment me fondre dans le lieu et puis être bercée par le bruit de la jungle qui est une vraie symphonie entre les lézards, les oiseaux, les singes.
Et vous aviez connu et éprouvé ça aussi au Japon, dans un petit temple, dans la forêt de Kyoto, je crois. Mm-hmm. Décrivez cet endroit qui semble aussi vous avoir touché.
Alors, c'était aussi un endroit très chargé énergétiquement. C'était dans un tout petit temple très intime, dans la forêt. Et c'était en fin d'après-midi, juste avant la fermeture du temple. Et puis, tout d'un coup, une grenouille, puis une autre, puis une clameur de grenouille. Toute la forêt s'est réveillée, avec une bande-son sauvage et pleine de mystères et qui stimule l'imagination. Et on aurait cru vraiment que les yokai, les esprits de la forêt japonais, se réveillaient tous en même temps. Il y avait un côté presque inquiétant.
Ouais. Dans ces endroits, vous avez le plaisir de dessiner aussi la petite faune qui se faufile, notamment un gecko que vous dessinez sous toutes les coutures. Alors là, c'est dans les temples d'Angkor que vous croquez ce gecko. Vous avez aussi ce goût, un peu cet œil naturaliste. On a beaucoup parlé des rencontres.
C'est des restes. Oui, j'ai fait des études de biologie et d'écologie et ça me passionnait. Enfin, j'ai pas fait mon métier là-dedans, mais j'avais pas fait ces études-là par hasard. Et cette curiosité naturaliste de la petite bête, de la plante, je l'ai toujours.
Ouais, vous l'avez eu aussi. Alors dans un précédent voyage qui est pas présenté dans cet ouvrage, en Papouasie, vous aviez participé à une expédition.
J'ai même eu la chance d'être embarquée, comme dessinatrice d'expédition, comme autant des grands explorateurs.
Ça, c'est absolument fabuleux. Vous avez traversé quelle contrée en Papouasie comme ça?
On est parti de l'archipel des Raja Ampat pour aller jusqu'à la baie de Triton, qui est la tête en fait de la grande île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc qui a la forme d'un oiseau. On était dans la tête et dans le cou de l'oiseau.
Et ce sont des régions absolument préservées, intouchées par l'homme pour la plupart.
C'était bouleversant de voir qu'il y a encore des régions dans le monde qui sont aussi peu abîmées par l'homme. On pouvait naviguer pendant des jours sans voir personne et sans voir de traces d'activité humaine, ce qui est assez rassurant.
Voilà, donc vous aimez les rencontres, mais vous aimez aussi parfois vous plonger dans la nature intouchée. Quel est le pays que vous rêveriez de traverser avec vos crayons et vos pastels et que vous n'avez pas encore visité, Stéphanie Manon?
Je ressens de plus en plus un attrait pour les régions himalayennes, que ce soit le Népal ou le Tibet. J'ai eu un tout petit aperçu du Népal en février dernier et je rêve d'aller approfondir ça.
Vous nous raconterez? Vous reviendrez?
Avec plaisir si je suis invitée.
Merci Stéphanie Ledoux. Je rappelle le titre de votre livre La Cabaye, échappée dessinée aux éditions Elitis. Les dessins sont magnifiques et les textes très éclairants. C'est vraiment un superbe ouvrage. Et je le rappelle, on a mis quelques-uns de vos dessins sur les pages Instagram et Facebook du Temps d'un Bivouac. Et je précise qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un compte sur ces réseaux sociaux pour accéder à ces pages. Un grand merci à vous, Stéphanie Ledoux, d'être passée par notre bivouac et bon retour à Toulouse.
Merci beaucoup, Daniel.
Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Pour réécouter cette émission et les précédents épisodes, il y a les podcasts ou l'appli Radio France ou sur franceinter.fr pour nous laisser un message aussi franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.